Voilà, bien, à mon tour de vous saluer bien fraternellement. Alors, il est vrai que chaque fois qu'un prédicateur vient vous visiter, il dit toujours qu'il est dans la joie de le faire. C'est normal. On verrait difficilement le contraire. Mais particulièrement, moi, je suis heureux et je vais vous dire pourquoi. Parce que se rapprocher de l'église où se réunissent ses enfants, c'est un bonheur particulier avec Anne-Lise, avec Samuel et Baptiste, et voir dans quel milieu ils évoluent dans leur foi chrétienne, avec qui ils partagent leur amour de Dieu. Eh bien, c'est une joie pour un papa. Et puis il y a aussi une autre joie, c'est celle de rencontrer des frères et sœurs que je ne connais pas, mais que je sais qui appartiennent au Seigneur, sont des brebis du bon berger. Vous êtes des brebis du bon berger, et c'est une joie de partager cette communion fraternelle, bien sûr. Voilà, et puis joie aussi d'apporter la parole de Dieu, parce que malgré tout, c'est bien sûr un travail que l'on doit préparer, mais c'est aussi une joie de communiquer la parole de Dieu, donc je veux le faire avec bonheur parmi vous. Alors, on m'a demandé de me présenter, ce qui est bien normal d'ailleurs. Ben moi je m'appelle André Allègre, je suis marié avec Lilou, la maman de Baptiste, mais qui n'est pas là aujourd'hui, vous l'avez entendu tout à l'heure, qui est alitée, qui a une bonne grippe depuis hier. Et donc elle n'aurait pas pu venir, ça c'est sûr, je l'ai laissée dans ses mouchoirs, dans sa fièvre ce matin, mais au bon soin aussi du bon berger, parce que il garde ses brebis où qu'elles soient. Elle m'a chargé de vous saluer, donc je le fais. Et elle m'a dit, il faudra y retourner, hein, bien sûr. Donc, voilà, dans quelques semaines, nous viendrons à nouveau vous rendre visite. Donc, je suis né dans une famille chrétienne, mais mon grand-père était un viticulteur, il avait une propriété agricole et nous habitions dans la même ferme. Et donc, mon grand-père était en même temps aussi pasteur d'une petite église de frères. Alors, pasteur, à l'époque, on ne disait pas qu'il était pasteur, mais comme c'est lui qui prêchait tous les dimanches et qui conduisait cette petite assemblée, on peut dire qu'il était pasteur. Et c'était un homme de Dieu qui avait soin de nos âmes, de la famille, et c'est très souvent qu'il me demandait si j'avais fait le pas de la conversion. « Tu es sauvé ». C'était des paroles un peu brutales qu'un enfant entendait, mais finalement salutaires, puisque chaque fois qu'il me disait ça, ça me remettait en question. Être sauvé, qu'est-ce que c'est? Alors bien sûr, j'entendais la parole de Dieu, et finalement, évidemment, à l'adolescence, j'ai donné mon cœur au Seigneur. Voilà, donc cheminement, marié jeune avec Lilou, bien sûr, qui connaissait le Seigneur, et puis on a eu 4 enfants, donc Baptiste est le numéro 3. Et voilà, et petit Samuel est le 6e petit enfant que nous avons. Voilà. Un témoignage en musique, c'est agréable.
C'est à côté.
Ah, c'est à côté. Voilà. Que vous dire de plus? Donc, actuellement, nous sommes occupés, oui, au niveau église, longtemps, et mon épouse, d'église maison, où on a pu essayer de faire cheminer quelques frères et sœurs dans la foi. Et puis maintenant, depuis 4 ou 5 ans, nous avons rejoint une grande église de Nîmes, qui s'appelle l'Assemblée chrétienne, ou le Centre Martin Luther King. Je ne sais pas si vous connaissez. Où là, je peux faire quelques visites. J'aime beaucoup faire les visites des personnes âgées, des malades. Et aussi m'occuper, parce que c'est une église qui a des groupes maisons en semaine, et donc m'occuper d'un groupe maison. Voilà. Je ne sais pas si vous me connaissez un peu mieux que tout à l'heure, mais je ne sais pas qu'est-ce que je peux vous raconter de plus. Oui, alors ça c'est important, c'est vrai. J'ai travaillé pendant 40 ans au Crédit Agricole, dans une banque, et puis depuis 2 ans, je suis à la retraite, donc vous voyez, j'ai 62 ans. Connaissez mon âge, et donc actuellement j'ai du temps aussi pour m'occuper de visites, je le disais, et puis j'ai encore mon papa qui a 93 ans, donc le papy de Baptiste, mon beau-père qui habite aussi à 100 mètres de chez lui, qui aussi est une personne âgée qui a besoin de soins, Et là aussi, tous les jours, il y a du travail à faire avec les papas. Mais voilà, on le fait parce que c'est devant nous. Hein. La parole de Dieu dit qu'il faut s'occuper de ses parents, qui se sont occupés de nous quand on était petits. Et c'est à nous de nous en occuper quand ils sont plus âgés. Et voilà, après je peux parler de ma vie un peu plus personnelle, mais bon, on va s'arrêter là, parce qu'il y a des choses à dire sur la parole de Dieu. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler de fondements de la vie chrétienne et de la vie d'Église. Alors, parmi tous ces fondements qui conduisent à la croissance de l'Église, la croissance spirituelle, je voudrais en développer deux ce matin. Alors, en général, les fondements nécessaires à la croissance individuelle sont semblables à quelque chose près, la croissance de l'Assemblée, la croissance de l'Église. Parce que il est bien vrai que si chaque membre grandit dans le Seigneur, évidemment, l'Église va grandir aussi. C'est logique. Et l'inverse se vérifie également. Alors, les fondements, ben, vous les connaissez, certainement que les prédications tournent autour de ces fondements. L'amour fraternel, l'amour de Dieu, l'amour fraternel, le fruit de l'esprit, les dons de l'esprit, l'humilité, le témoignage, la prière, la louange, l'étude de la parole, toutes ces bases doivent évidemment être enseignées dans l'assemblée. Il y en a bien d'autres encore qui constituent donc ces bases de la vie chrétienne normale et de la vie de l'Église. Alors aujourd'hui, je voudrais en développer deux que je n'ai pas nommés. Je voudrais vous parler du brisement, de l'esprit brisé au-dedans de nous, qui conduit à cette vie de résurrection que le Seigneur veut verser dans nos vies pour qu'elle soit un bon témoignage pour lui, une vie, la vie de Jésus. Jésus-Christ est ressuscité, nous le chantons, mais qu'est-ce que ça produit concrètement? Eh bien, c'est cette vie de résurrection de Jésus ressuscité qu'il verse en nous. Et bien souvent, pour que ça, elle ait toute sa place, cette vie de résurrection, il y a un brisement de l'homme ou de la femme dans la chair qui doit se procurer. Je vais le développer. Ça, c'est le premier thème. Et puis, le deuxième, qui peut-être n'est pas très populaire non plus, mais vous allez voir qui conduit à de belles choses, c'est se garder de l'idolâtrie pour mieux adorer le Seigneur. Voilà, ces deux chemins sont porteurs de bénédictions et conduisent à des grandes victoires. Alors que nous allons parler de la maison de Dieu, il va vous paraître peut-être un peu bizarre, un peu étrange, que la lecture que nous allons faire de la parole de Dieu se trouve dans l'Ancien Testament. Parce que l'Église, le mot Église n'existe pas dans l'Ancien Testament, et les pensées concernant l'Assemblée n'y sont pas développées. Et donc, ça peut paraître étrange qu'on parle de ça. Mais vous allez voir. Vous allez voir qu'en développant ces sujets, on y trouve de belles choses. Alors, dans le livre de la Genèse, on trouve, dans la vie du patriarche Jacob, de précieuses vérités que je voudrais développer. Alors, dans Genèse 28, versets 10 à 17, on va lire quatre passages de la vie de Jacob, et je les commenterai dans le thème que je vous ai dit tout à l'heure. Genèse 28, verset 10, Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Haran. Il atteignit un endroit où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit l'une des pierres de l'endroit, il la plaça sous sa tête et se coucha à cet endroit. Il eut un rêve, et voici qu'une échelle était dressée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et les anges de Dieu y montaient et descendaient. Or l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. » Ta descendance sera innombrable comme la poussière de la terre, et tu t'étendras à l'ouest, à l'est, au nord, au sud. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta descendance. Voici, je suis moi-même avec toi, je te garderai partout où tu iras, je te ramènerai dans ce territoire, car je ne t'abandonnerai pas avant d'avoir accompli ce que je te dis. Et Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit « Certainement l'Éternel est présent dans cet endroit et moi je ne le savais pas. » Il eut de la crainte et dit que cet endroit est redoutable. Ce n'est rien moins que la maison de Dieu, c'est la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre qu'il avait placée sous sa tête et l'érigea en stèle et versa de l'huile sur son sommet. Il donna le nom de Bethel à cet endroit. Le deuxième passage, c'est juste un verset, au chapitre 31 et au verset 13. 20 années se sont écoulées depuis ce premier passage, et Jacob entend la voix de Dieu lui dire, au verset 13 du chapitre 31, « Je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint une stèle, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, quitte ce pays, et retourne au pays de ta naissance. » Troisième passage, chapitre 32, et au verset 24 à 31. Alors, Jacob donc prit ses enfants, ses femmes, leur fit passer le torrent et il fit passer à tout ce qui lui appartenait. Verset 25, Jacob resta seul. Alors un homme se battit avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, il le frappa à l'articulation de la hanche, et l'articulation de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il se battait avec lui. L'homme dit, « Laisse-moi partir, car l'aurore se lève. » Jacob répondit, « Je ne te laisserai point partir sans que tu ne me bénisses. » L'homme lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » L'homme reprit, « Jacob ne sera plus le nom qu'on te donnera, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. » On va continuer jusqu'au 31. Jacob l'interrogea en disant, « Je t'en prie, indique-moi ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Et Jacob donna à cet endroit le nom de Péniel, car dit-il, « J'ai vu Dieu face à face. » Et mon âme a été préservée. On tente le 32. Le soleil se levait jusqu'à lorsqu'il passa Pénuel. Et Jacob boitait de la hanche. Et dernier passage que nous voulons lire ce matin, c'est chapitre 35, verset 2. 35, verset 2 à 7. Dieu dit à Jacob, « Lève-toi, monte à Bethel et habite-y. Et là, tu me feras un autel. » Tu feras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu étais en fuite devant ton frère Ésaü. Et Jacob dit à sa famille et à tous ceux qui étaient avec lui, « Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous, changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a répondu au jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. » Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains, ainsi que leurs boucles d'oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Et au verset 7, il bâtit là un autel et appela cet endroit El Bethel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il était en fuite devant son frère. Amen. Pardon pour toutes ces lectures peut-être un peu longues. Mais elles sont liées, vous l'avez compris, les unes aux autres, notamment avec un mot qui revient régulièrement dans ces chapitres, dans ces passages, c'est le mot de Bethel, la maison de Dieu. Beth, ça veut dire maison en hébreu. El, c'est Dieu. Bethel, maison de Dieu. Comme on peut avoir Bethléem, maison du pain, Béthanie et tous les autres Beth. Donc, Bethel, la maison de Dieu. Là, nous sommes déjà un peu plus rassurés, bien que nous soyons dans l'Ancien Testament, c'est un sujet que nous connaissons un peu plus, la maison de Dieu. La maison de Dieu, de nos jours, c'est l'Église, c'est là où nous sommes réunis ce matin, mais c'est la communauté des frères et des sœurs qui vivent ensemble le témoignage chrétien. Alors, nous sommes donc autorisés à lire dans cette histoire de Jacob, un enseignement qui va nous aider à cheminer dans l'Église du Seigneur et qui seront profitables. Que Dieu se serve de Jacob pour parler de la maison de Dieu et de ces choses si importantes, ça m'encourage. Et je pense que ça nous encourage tous parce que Jacob, c'est pas l'exemple suprême de la moralité, c'est pas l'exemple suprême du croyant dans toute la vérité du témoignage, non. C'est pas David, encore que David, on pourrait sortir des épisodes de sa vie peu reluisants, mais par exemple Abraham ou encore Joseph sont des personnages qui ont une moralité exemplaire dans bien des cas. Mais là, Jacob, lui, c'est quelqu'un qui porte même jusque dans son nom, parce que le mot de Jacob veut dire fraudeur, quelqu'un qui trompe. C'est la signification du mot Jacob. Il porte même jusque dans son nom sa nature d'homme. Et quand nous le retrouvons là, en fuite, devant son frère qui veut le tuer, devant son père et sa mère qui lui ont dit « Non, il faut que tu partes. Il faut que tu quittes la maison. Ça sera mieux pour toi et pour nous. » Donc Jacob, je ne sais pas, 20, 25 ans, et part. Et il doit faire un long voyage. Il doit retrouver la famille de sa mère dans l'Irak actuel. Alors voyez un peu Beersheba au sud d'Israël, monter toute Israël, puis passer la Syrie jusque en Chaldée, en Irak. C'est un long voyage, à pied bien sûr. Et en même temps, le cœur de Jacob est plein de, nous pouvons le penser, plein de culpabilité, plein de tristesse, plein de questionnements. Que va-t-il m'arriver ? Reverrai-je un jour ma mère et mon père ? Mon frère, je ne suis pas trop pressé de le retrouver. Bon, vous connaissez probablement tous l'histoire, hein. Il a menti, il a trompé son frère et d'une manière assez méchante. Et donc, il est vraiment susceptible d'avoir dans son cœur des pensées accablantes. Et pourtant, et là je voudrais m'arrêter un instant, Dieu va parler d'une manière très douce et très bénissante à son enfant. Et il va lui parler dans un endroit qui s'appelle Bethel, parce que même si c'est Jacob qui a donné ce nom-là à ce lieu-là, c'est quand même Dieu qui veut que ce lieu-là s'appelle Bethel, un lieu physique, mais un lieu spirituel. Et Dieu va faire entendre une voix, non pas de condamnation, non pas de culpabilité, non pas d'accusation, mais une voix de tendresse à son enfant. Est-ce à dire que Dieu a passé l'éponge sur ce qui s'est passé ? Certainement pas. Mais Dieu est un Dieu qui, pour restaurer nos vies, souhaite que notre âme soit dans un premier temps apaisée à son sujet, et que nous ayons vis-à-vis du Seigneur une vue de grâce, un Père compatissant, pour que peut-être les leçons qu'il a à nous apprendre soient plus faciles à apprendre. Et l'Église, je crois, est un lieu où, et le psaume 4 que nous avons entendu tout à l'heure, et les commentaires qui ont été faits aussi vont dans ce sens, que même si nous ne sommes pas parfaits, l'Église est un lieu où Dieu nous accueille pour nous perfectionner. Ce n'est pas un lieu où Dieu nous accueille pour nous condamner et pour nous pointer du doigt. Ce n'est pas un lieu où on doit avoir peur. C'est un lieu où Dieu nous reçoit et nous reçoit dans ses bras, même s'il y a des choses dont il va s'occuper, certainement, car Dieu est un Dieu saint. Et il faut que notre vie corresponde à cette sainteté, évidemment. Mais Dieu va le faire dans un climat de grâce. Et j'aime à dire souvent que Dieu est 100% amour et 100% saint. Pas 50-50. Ça voudrait dire qu'on diminue quelque chose de Dieu. C'est vrai que les mathématiques ne font pas bon ménage avec la parole de Dieu. Que 100% et 100%, ça fait 200%. Dans les mathématiques, mais dans la foi chrétienne, dans la vérité de Dieu, 100% saint, 100% grâce, tel est le caractère de Dieu. Alors, il lui fait entendre à Jacob des belles promesses. Je ne t'abandonnerai pas. Je serai toujours avec toi. C'est important pour Jacob qui n'était jamais sorti de son clan. Il pouvait peut-être penser que la bénédiction de Dieu ne résidait que là où il y avait son père et sa mère et la foi. Peut-être qu'il connaissait l'histoire d'Abraham, certainement, c'est pas peut-être, et qu'il lui avait été raconté que Dieu l'avait pris d'un endroit idolâtre et l'avait fait venir en Israël. Il lui a dit « Ce pays est le tien et je te donnerai tout ce pays, à droite, à gauche, devant, derrière, tout ce pays est à toi ». Et Jacob se dit, mais si je pars de là, Dieu ne sera pas avec moi. Je vais être vraiment seul. Seul de ma famille, mais seul, Dieu ne peut pas. Qu'est-ce que je vais devenir? Et il avait besoin d'entendre ces paroles de Dieu. Je serai toujours avec toi. Je te ramènerai et je ne t'abandonnerai pas. Et peut-être que ce matin, nous aussi, on a besoin de réentendre ces promesses de Dieu. Peut-être que dans nos vies, il y a des fardeaux lourds à porter, des choses peut-être culpabilisantes que nous avons pensées, commises, et que le Seigneur voudrait nous dire, oui, on va en parler, mais je voudrais te dire que je ne t'abandonnerai pas, et que je vais te conduire, et que je vais mettre sur ta route des moments, des personnes, des circonstances qui vont favoriser ta vie spirituelle et qui vont te permettre de revenir. C'est bon de voir Dieu sous cet angle-là et c'est bon de savoir que l'Église est porteuse de cette attitude d'accueil, de compréhension, de patience vis-à-vis de chacun et de chacune. C'est une caractéristique très importante de l'Assemblée du Seigneur. Nous ne sommes pas parfaits, nous avons des choses peut-être à régler, mais l'Église est un lieu d'accueil. C'est un lieu où on doit pouvoir avancer avec le Seigneur, trouver son pardon, trouver sa compassion dans le cœur des frères et sœurs qui nous accueillent. Je pense que ça, c'est important pour chacune de nos églises. C'est pas toujours le cas, c'est pour ça que j'insiste. C'est pas toujours le cas, je parle pas d'ici, mais dans l'église en général. Apparemment, ce matin, j'ai été très bien accueilli. Il y a beaucoup de grâce et d'amour parmi vous, et je le souligne parce que c'est vrai. Alors, encore un petit peu de temps sur cet accueil que Dieu fait à Jacob dans ces circonstances difficiles. Une échelle, une pierre. Ce sont deux objets importants dans cette circonstance de Bethel. Une échelle, c'est une communication entre le ciel et la terre, et Dieu lui-même se tient en haut de l'échelle. Souvent on entend parmi nous, mais où il est Dieu? Qu'est-ce qu'il fait Dieu? Alors peut-être si un jour quelqu'un vous pose la question, où il est Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Vous pouvez lui dire, il est en haut de l'échelle. Bon, peut-être qu'il ne comprendra pas, la personne ne comprendra pas, mais ça veut bien dire que Dieu a un regard sur ce qui se passe dans nos vies et sur cette terre. Et en plus, il y a des anges. On ne parle pas souvent des anges. Je ne sais pas si dans votre assemblée on parle des anges, mais quand même, les anges sont des créatures célestes qui non seulement existent, mais qui ont des rôles. Et ces anges montent et descendent. Ils montent voir Dieu en disant, voilà ce que nous avons fait sur cette terre. Et nous avons fait ce que tu nous as commandé. Nous attendons les ordres suivants. Et ils descendent et ils montent. On ne parle pas assez, peut-être pas assez souvent de ce rôle des anges dans la vie des croyants. Je crois qu'il y a un passage qui dit, je vais vous le lire, dans Matthieu 18, verset 10. Peut-être un verset encourageant pour Annelise, ça. Pour tous ceux qui ont des petits-enfants. Il nous est dit que, dans Matthieu 18, verset 10, « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. » C'est un verset étrange, mais bien réel dans la parole de Dieu. À savoir que les petits-enfants sont soutenus, sont gardés, peut-être chacun par un ange. Alors quand on dépose son enfant à la garderie, c'est bien d'y penser. C'est bien d'y penser. Non seulement les petits, mais les grands aussi, puisqu'il nous est dit dans Hébreux, je crois, que les anges sont des esprits administrateurs envoyés par Dieu pour secourir ceux qui vont hériter du salut, c'est-à-dire nous autres. Donc pensons aux anges qui nous entourent et que Dieu envoie pour nous bénir et nous garder. Et nous, peut-être que si on avait chacun le micro, on pourrait donner des témoignages de nos vies où on a senti vraiment une présence qui nous a gardés d'un accident ou d'un malheur. Certainement que le Seigneur avait envoyé ses anges. Et un peu plus tard, dans la vie de Jacob, Dieu, pour l'encourager, 20 ans plus tard, lui envoie deux groupes d'anges. Il avait appelé cet endroit-là Mahanaïm. Mahanaïm, ça veut dire deux camps. Et Jacob voit deux groupes d'anges. Probablement que Dieu voulait l'encourager, parce que dans quelques jours, il allait rencontrer son frère Ésaü. Et Dieu voulait lui dire, mais tu crains rien, mes anges sont là. Bon, cette vision n'a pas été très très retenue par Jacob, parce qu'il a échafaudé toutes sortes de plans pour accueillir son frère. Vous connaissez cette histoire. Là où je voudrais en venir maintenant, c'est dans la vie de Jacob, c'est qu'il arrive donc, après ce voyage dont je vous ai parlé tout à l'heure, il arrive en Irak actuel, hein, pour bien montrer la distance, chez son oncle Laban, et là, eh ben, il recommence une vie de labeur, mais une vie aussi où Dieu met en face de lui quelqu'un qui lui ressemble. Son oncle est comme lui, c'est quelqu'un qui trompe, c'est quelqu'un qui tient pas parole, c'est quelqu'un qui est fourbe, c'est quelqu'un qui dit une chose et puis fait le contraire. Ce qui lui dit, mais tu, oui, ok, tu vas pouvoir te marier avec ma fille, là. Et puis le soir des noces, eh ben, il lui donne une autre fille. Donc, Jacob est devant quelqu'un qui, pour son salaire, pour ses troupeaux, est en face d'un patron qui est fourbe. Et Dieu, pour ainsi dire, voudrait lui dire, mais serre-toi de Laban comme de miroir. Vois que ce qu'est Laban est, toi tu l'es à l'intérieur. Je ne sais pas si Jacob a pu avoir cette forme de réflexion. Rien ne nous le dit. Mais Dieu continue. Dieu continue son travail. Il n'abandonne pas son enfant. Ça met 20 ans, ça peut mettre plus, mais Dieu continue sa bénédiction sur ses enfants. Je voudrais aussi vous le marteler ce matin. Dans chacune de vos vies, dans ma vie, Dieu continue son travail de bénédiction, même si ça prend du temps. Alors, le deuxième passage que nous avons lu, ce seul verset, nous dit, Dieu dit, va à Bethel où je t'ai apparu. Donc, Jacob comprend que c'est le moment de quitter Padan Aram, son oncle et beau-père, et de prendre tout ce qui lui appartient. Jacob s'est enrichi, Dieu l'a béni, il a beaucoup de troupeaux, beaucoup d'enfants, 11 enfants, le 12e naîtra en voyage. Et le voilà parti. C'est là qu'il a la rencontre des anges dont je vous ai parlé, et il arrive à un endroit qui est pas bien loin de là où il est parti, et on vient lui dire, ton frère arrive avec 400 hommes. Imaginez le comité d'accueil. Si son frère avait voulu l'accueillir paisiblement, il vient avec 5 ou 6 personnes, 10 peut-être. 400, ça fait plutôt armé, quoi. Donc Jacob panique, on peut le comprendre, et il échafaude toutes sortes de plans, comme il a l'habitude de faire, et il est très inquiet, très perturbé, et nous le retrouvons au bord du torrent, où il nous est dit qu'il est seul. Il fait partir il essaye de planquer un peu sa famille dans deux parties. Si Ésaü en attaque une, l'autre sera sauvé. Enfin, il sait pas trop quoi faire. Et il se retrouve seul. Et Dieu vient le rencontrer. Et c'est important de souligner que la parole de Dieu nous dit que Jacob était seul. Parce que quand on est seul, je sais pas ce que vous en pensez, mais quand on est seul, on est vrai. Quand on est avec les autres, on peut montrer un visage, on peut nourrir les apparences. Quand on est seul, on peut pas tromper Dieu, et on est tel qu'on est. Et c'est d'une manière un peu bizarre que Dieu le rencontre. Et il faut essayer de décrypter un peu cette scène où un homme vient lutter avec Jacob. Drôle de façon d'enseigner Jacob. Et pourtant, est-ce que cette lutte qui dure jusque toute la nuit, une lutte âpre, n'est pas le reflet du caractère de Jacob? Un homme qui lutte par ses propres forces, un homme qui agit, qui calcule, qui essaye de mettre en avant ses propres forces. Et c'est là où peut-être le Seigneur voudrait nous parler à chacun, et celui qui parle le premier, évidemment, moi-même, en nous disant, je voudrais, André, puisque c'est mon prénom, être celui qui est à la source de ce que tu fais, de ce que tu penses, de ce que tu dis, de ce que tu prévois, de ce que tu projettes. Et voilà que tu es celui toujours qui organise, qui prévoit, qui t'inquiète. Et je crois que il arrive un moment donné dans nos vies où Dieu insiste lourdement là-dessus, parce que il ne le fait pas pour nous punir, il ne le fait pas pour nous embêter, mais Dieu sait que c'est le seul moyen pour que nous puissions porter du fruit, que ce soit lui qui le porte en nous. Et que ce soit sa vie de résurrection qui coule en nous pour que nous puissions vraiment le glorifier et porter du fruit. Et ça passe par un brisement. Ça passe par un esprit brisé. Le psaume 51 nous dit, je vous le lis, vous savez que le psaume 51 c'est un psaume de repentance, c'est quand David revient au Seigneur après avoir péché avec Bathsheba, et il dit ceci, alors, il faudrait lire tout le psaume, mais j'ai marqué la référence quelque part. Voilà. Dans la Bible du Semeur, je l'ai marqué le verset dans mon papier, psaume 51. Le seul sacrifice qui convienne à Dieu, c'est un esprit humilié. Ô Dieu, tu n'écartes pas un cœur brisé et contrit. Ô Dieu, tu n'écartes pas un cœur brisé et contrit. Il faut que Jacob et que nous-mêmes, nous arrivions à cette extrémité où nous éloignons de nous-mêmes nos propres forces, nos propres vertus, nos propres capacités, et que nous puissions dire, Seigneur, c'est toi qui vas agir en moi. Et toute la Bible enseigne ces choses, mais on les prêche pas souvent. Job, par exemple, a été conduit dans ce chemin. Et ce n'est qu'au 28e chapitre qui peut dire « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. » Jean-Baptiste, lui, il a dit une phrase qui est très simple « Il faut qu'il croisse et que moi je diminue. » Et Paul a dit aussi « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Voilà la vie de résurrection que Dieu nous promet. C'est finalement relativement assez simple. C'est Dieu qui va nous donner toute force, qui va nous donner toute sagesse, qui va nous donner toute capacité, à condition que notre vase se déleste de nos propres capacités à nous, de nos propres forces à nous. Et Dieu donc va transformer Jacob pour qu'il Jacob soit en adéquation avec le lieu de la présence de Dieu, Bethel. Et encore une fois, donc je reviens à l'Église, c'est le travail que Dieu veut faire dans nos assemblées, dans les assemblées du monde entier. Dieu veut amener les cœurs des croyants à correspondre à ce lieu de sa présence. Des hommes et des femmes, des croyants qui sont humbles et acceptent que ce soit Dieu qui fasse les choses. C'est, je pense, ce que le Seigneur veut nous dire ce matin. Jacob, le croyant indépendant de Dieu, celui qui fabrique sa vie, celui qui ne prend que ce qu'il arrange de Dieu, celui à qui nous ressemblons bien souvent, va devoir passer par une réduction divine, une diminution de lui-même, un brisement intérieur et extérieur aussi, parce que l'homme qui lutte avec lui va avec son doigt toucher la hanche de Jacob. Et la hanche dans le corps humain, c'est un endroit de stabilité, c'est un appui, c'est quelque chose qui donne de la force à l'homme, à l'être humain. Et justement, si cet endroit-là est touché, l'homme devient faible. L'être humain devient faible. Et bien sûr, tout ça c'est imagé, tout ça c'est spirituel, bien que l'exemple qui nous est donné soit un exemple physique. Nous comprenons que quelquefois Dieu nous affaiblit dans notre marche pour que nous puissions mieux compter sur lui. Que le Seigneur nous aide. Et il nous est dit encore un verset que je vous laisse en conclusion de cette pensée du brisement. C'est que dans Romains 8, il nous est dit que Dieu nous amène à la transformation pour que nous devenions semblables à son Fils. Rendez compte le projet que Dieu a pour nous, nous amener ressemblant à Jésus-Christ. Et puis, nous connaissons bien le Seigneur Jésus, ce qu'il dit dans Philippiens 2, qui est descendu de la gloire, qui s'est abaissé toujours, lui-même, de lui-même, jusqu'à la mort et à la mort de la croix. Eh bien, ce plan, Dieu l'a pour nous, pour que, non pas nous, encore une fois, nous punir, ni nous brimer, mais pour que la vie de Jésus puisse couler et bénir les autres. Alors, une fois que le retourne, une fois que Jacob a vu Dieu, parce que Peniel, ça veut dire j'ai vu Dieu face à face. J'ai vu Dieu face à face. Une fois que Jacob a vu Dieu, comme Job a vu Dieu, maintenant mon œil t'a vu, eh bien, Jacob va pouvoir mettre sa vie en adéquation avec ce lieu de Bethel. On peut remarquer que Dieu ne donne pas, enfin l'homme, mais qui est Dieu, c'est une théophanie, c'est-à-dire une manifestation de Dieu au travers d'un corps d'homme, ne donne pas son nom. Jacob lui dit, mais qui es-tu? Et Dieu ne répond pas. Parce qu'il y a des choses dans la vie de Jacob qui doivent être confessées, qui doivent être réglées. Et d'ailleurs, Jacob va le faire, il va dire à sa famille, après que Dieu lui ait dit dans le dernier passage que nous avons lu, « Monte à Bethel », de Peniel, ils doivent passer à Bethel, il n'y a pas de Bethel sans Peniel, dans nos vies aussi. Jacob dit à sa famille et à ses enfants, à tous ses serviteurs, je vais le relire, « Purifiez-vous, changez de vêtements, nous nous lèverons, nous irons à Bethel. Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. » Ah, il y a encore un travail à faire. Il y a un travail d'idolâtrie il faut y travailler dessus. Il y a des choses qui prennent la place de Dieu. Il y a des choses qui sont incompatibles avec Bethel, incompatibles avec la présence du Seigneur. Et le Saint-Esprit met le doigt là-dessus dans la vie de Jacob, et effectivement la femme de Jacob, la fille de Laban, avait amené des idoles avec elle, des téraphins, et les avait cachées, et ça c'était incompatible avec la maison de Dieu, c'était incompatible avec Bethel. Et Dieu nous montre par là même qu'il y a des choses dans nos vies qui doivent être abandonnées, qui ne sont pas compatibles avec le Seigneur, qui est saint. Le Seigneur, je l'ai dit tout à l'heure, dévoile toute sa grâce, toute sa bonté envers nous, pour nous accueillir, pour nous dire « je serai avec toi », etc. Mais le Seigneur a bonne mémoire, et il nous conduit pas à pas, avec beaucoup de patience, à abandonner certaines choses. Et l'Église n'est pas un endroit où on doit conserver des choses qui le déshonorent. Il y a peut-être même des choses, des péchés anciens qu'il faut amener à la lumière, à abandonner. parce que ça fragilise l'Église, parce que ça fragilise la communion fraternelle. Et le Seigneur voudrait nous apprendre à confesser tout cela. Et que toutes ces casseroles, peut-être, que nous traînons dans le, du passé, eh bien, que nous apprenions à petit à petit, avec la grâce de Dieu, avec l'aide des frères et sœurs, à les laisser. Des péchés connus que nous tolérons, ben, peut-être que le Seigneur voudrait nous apprendre à les laisser. C'est pas peut-être, même c'est sûr. Hein, pour que notre Église grandisse. Le Seigneur ne veut pas s'associer avec des choses qui ne lui conviennent pas. Pas d'occultisme non plus. Ces choses-là existent de plus en plus dans le monde. Voudraient peut-être rentrer dans l'Église. Nous devons monter un front déterminé sur ces choses. Pas d'occultisme dans nos vies, dans l'Église. Alors, toutes ces choses, ben, ça doit être enfoui au pied de l'arbre, au pied d'un arbre. Et si nous voulons paraphraser, ben, nous dirons que ces choses sont enfouies au pied de la croix, pour nous. Hein, pour que ça se soit réglé et que notre Église soit belle, notre Église soit pure. Le Seigneur veut nous amener là. Et là, Jacob édifie un autel, et cet autel, il va l'appeler El Bethel. El Bethel, c'est-à-dire Dieu, le Dieu de la maison de Dieu. Voilà, le Dieu de la maison de Dieu. Il n'apparaît plus. L'autel qu'il avait dressé avant, c'était El Elohe Israël, c'est-à-dire le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël. Il pense encore à tout ce que Dieu peut lui donner. Mais là, il ne pense plus qu'au Seigneur. Le Dieu, le Bethel, le Dieu, la maison, le Dieu de la maison de Dieu. C'est l'adoration. C'est l'adoration dans sa pureté. On ne pense plus qu'au Seigneur, ce qu'il est, et non pas seulement à ce qu'il fait pour nous. Alors nous sommes en chemin, nous cheminons, le Seigneur nous délivre de nous-mêmes, nous délivre d'un moi qui veut toujours s'accaparer la bénédiction de Dieu, bien sûr que Dieu bénit, mais de voir Dieu que comme celui qui donne, voir Dieu comme celui qui nous bénit, n'est pas juste dans un sens. Nous adorons Dieu pour ce qu'il est. Pour ce qu'il est, dans toute sa gloire. Et c'est l'adoration. Donc voilà un petit peu ce que nous pouvions développer ce matin dans ces sujets de la vie de Jacob, plein de vérités, même si ça a 4000 ans d'intervalle entre l'histoire de Jacob et nous. Nous sentons que l'Esprit de Dieu nous dit, mais c'est actuel, ces histoires sont pour nous. Nous pouvons tirer des enseignements pour nos âmes, pour notre Église. Et c'est merveilleux. Voilà donc ces deux pistes que nous avons examinées. Et le Seigneur nous appelle peut-être à y réfléchir dessus, à reprendre peut-être ces passages et les méditer, peut-être réécouter le message, je ne sais pas. Mais je crois qu'une église dont les vases ont été purifiés et vidés de leur contenu peuvent être vraiment remplis d'un esprit d'adoration et d'un esprit qui plaît au Seigneur. Donc, ben, on a envie de dire Amen, Seigneur, fais-le dans nos vies, fais-le dans nos églises, fais-le à Cavaillon, fais-le partout, bien sûr, où ton nom est invoqué. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin. Si vous voulez, on peut terminer par la prière, hein, et demander au Seigneur de bénir ces quelques pensées. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce qu'elle est vivante. Tu es un Dieu vivant, ta parole est vivante, ton esprit est vivant. Et nous te remercions parce que cette vie, eh bien, elle vient nous bousculer, elle vient nous parler, elle vient nous transformer. Et nous te remercions, Seigneur, pour tout ce que tu nous as dit ce matin, aux uns et aux autres. Et nous te remercions de nous parler de cette transformation que tu veux faire dans nos vies. Je te prie pour ces frères et sœurs que je ne connais pas ici. Tu connais toi leur quotidien, tu connais leur état d'âme, tu sais ce dont ils ont besoin, tu sais ce qui est dans leur cœur, ce qui est lourd peut-être. Peut-être certaines associations aussi qu'il faudrait laisser. Tout cela tu connais, et dans ta grâce, Seigneur, tu veux les aider, tu veux les encourager. Tu veux leur montrer que tu es ce Dieu de bénédiction, que tu es ce Dieu de grâce, que tu es ce Dieu qui mène tout à bonne fin. Et je te prie de le faire, Seigneur, dans ces vies, dans ma vie, et te demander, Seigneur, d'accompagner ta parole avec ton esprit de grâce, d'amour, de douceur, que rien de brut, que rien de saillant ne soit laissé sur le cœur de mes frères et sœurs qui puisse leur faire mal de ce que j'ai dit. Au contraire, Seigneur, que ta douceur vienne les entourer et les bénir, Seigneur. Je te les remets, Seigneur, comme je te remets, Seigneur, ma propre vie et ma propre famille. Et ensemble, Seigneur, nous voulons t'adorer parce que tu es notre Dieu et que tu prends soin de nous. Au nom de Jésus, amen. Thank you.